Bonjour et bienvenue dans l'épisode 77 de votre podcast Vers ma vie, croyances et leur influence sur notre alimentation et notre corps. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie, l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prêts, prêtes à renouer avec les plaisirs simples de la vie? C'est parti! C'est un sujet que j'ai abordé au début du mois d'avril, à l'occasion d'un live sur Instagram. Et si vous étiez présent, présente lors de ce live, n'hésitez pas à écouter quand même l'épisode qui va suivre puisque je le réenregistre et donc je vais forcément l'aborder de manière différente. C'est assez rigolo, ça m'est déjà arrivé quelquefois d'enregistrer un épisode de podcast à blanc. Mon micro n'était pas branché, j'ai dû le refaire. Et c'est rigolo comme je n'ai pas partagé les mêmes informations de la même manière. Et donc là, je me dis qu'effectivement, je ne vais pas partager les éléments que j'ai partagés le 8 avril de la même manière que je vais les partager aujourd'hui. Donc ça peut être assez intéressant. Et puis pour les personnes qui n'étaient pas présentes, en fait, j'ai préféré réenregistrer le live sous un format podcast, capsule, vidéo, audio pour vous permettre d'accéder à un contenu un peu plus digeste puisque le live était aussi composé de questions et de réponses. Il a duré un peu plus d'une heure et je me suis dit que ça pouvait être un peu long pour les personnes qui souhaitaient les réécouter. Donc là, vous avez la possibilité de regarder cette vidéo ou bien d'écouter la version audio, d'aller sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast, de taper Vers ma vie et de vous abonner pour pouvoir ensuite, ou alors juste de pouvoir l'écouter. N'hésitez pas à m'encourager en mettant des likes, des j'aime. Malheureusement, on perd davantage, je trouve, de visibilité de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, dès que vous mettez un petit pouce vers le haut, un j'aime, dès que vous abonnez à mon podcast, par exemple, ça peut encourager ce contenu et je vous en serai très reconnaissante. Lors de ce live, on a abordé toutes ces petites phrases dans nos têtes qui donnent du rythme, un certain rythme à nos journées, et notamment celles qui vont être aux commandes de nos repas. Et c'est vraiment ce dont il va être question aujourd'hui. On va parler de toutes ces pensées que l'on a au quotidien qui vont juste déterminer la manière dont on va passer à table, la manière dont on va manger, la manière dont on va digérer, la manière dont on va voir son corps, etc., etc., etc. On va voir aussi ensemble aujourd'hui comment on perpétue ces petites phrases et ce qu'elles peuvent aussi nous coûter. Et puis, je vais vous proposer à la fin de cet épisode quelques pistes pour commencer à vous servir de votre cerveau pour vous au lieu de contre vous, ce que l'on fait bien souvent. Et bien sûr, si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner vers une relation apaisée avec la nourriture, avec votre corps, avec vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de pouvoir vous expliquer davantage en quoi consiste mon programme de coaching. Donc, croyances et leur influence sur notre alimentation et notre santé. J'ai déjà enregistré plusieurs épisodes qui ont un lien avec ce sujet. Mais aujourd'hui, j'avais envie de présenter les choses un peu plus, de manière un peu plus synthétique, de manière peut-être un peu plus simple, avec un angle vraiment différent de comment j'ai pu approcher ce concept-là de plusieurs manières. Je pense notamment à l'épisode dans lequel je vous parle de c'est pas ce qu'on mange exactement, mais comment on le mange. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire juste après. Je vous mettrai de toute manière les informations sous cette vidéo. Donc, une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est juste des pensées, enfin une pensée, parce qu'on va parler d'une croyance, c'est une pensée qu'on a répétée plusieurs fois, de sorte à l'inscrire dans notre disque dur interne, qui est notre cerveau. C'est une phrase qu'on s'est dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus compter, de nombreuses fois, mais pas non plus tant que ça, donc plusieurs fois, et qui devient le prisme à travers lequel on voit le monde. Une croyance, en fait, ça va nous permettre de pouvoir organiser le monde. Parce que finalement, si on y réfléchit, quelque part, on vit dans un monde qui est quand même incertain. Quand on sort du milieu utérin pour aller dans le milieu de la vie, quand on arrive, quand on est qu'on est un bébé et qu'on se retrouve à la maternité ou dans une pièce ou peu importe, c'est quand même pas du tout ce qu'on avait expérimenté juste avant. Et en fait, le monde, il va nous paraître très... en fait, il n'a pas de sens. Au début, quand on est tout petit, on a un cerveau qui n'est pas formé, on va vivre davantage avec ses sens, avec son corps qu'avec sa tête. Et du coup, on va avoir besoin de repères. Ce repère, au début, ça va être la personne qui va s'occuper de nous. Bien souvent, ça va être la mère. On va se lier à elle avec des odeurs. Au début, les premiers jours de la vie, notre vue aussi est très limitée. Donc, bref, il va se passer plein de choses qui sont d'abord biologiques. Et ensuite, une fois que... Donc, les trois premières années de notre vie, il va y avoir énormément de connexions au niveau de nos neurones qui vont se faire. On va mettre énormément de sens sur ce qui se passe autour de nous. Un petit, à partir du moment où il commence à utiliser la parole, il va chercher à définir les choses. Si vous avez eu un enfant ou si vous avez été au contact d'un enfant qui est petit, rappelez-vous cette période pourquoi qui dure somme toute assez longtemps. Un enfant va avoir besoin, donc un enfant, un petit être humain, va avoir besoin de comprendre où il est, ce qu'il fait, comment, avec qui, pourquoi. Et tout ça dans le simple but de se rassurer. Notre besoin de sécurité est vraiment le besoin le plus fondamental de l'être humain. C'est lié entièrement à notre survie. Si on n'est pas en sécurité, le reste n'a aucune importance. On n'a pas besoin de se nourrir, d'avoir des relations sexuelles, on n'a pas besoin de dormir. Si on n'est pas en sécurité, alors on se croit en fait en danger. Et ça, c'est vraiment, quand je vous dis on, c'est plutôt nos cerveaux en fait. Nos cerveaux et notamment les parties les plus ancestrales, les plus primitives de nos cerveaux qui sont vraiment câblés pour la survie. Et l'élément le plus important de notre survie, c'est notre sécurité. C'est-à-dire que je ne suis pas en danger, je vais encore respirer dans quelques minutes. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, si vous m'écoutez, notamment, vous êtes dans un environnement plutôt safe, même si il se passe des choses dans le monde. Surtout ces deux dernières années, elles ont été très très chargées émotionnellement pour énormément d'entre nous. Mais même si on met la pandémie et la guerre malheureusement actuelle de côté, ou enfin plutôt les guerres actuelles de côté, parce qu'il y en a plusieurs, tristement. Au quotidien, on est quand même face à l'incertitude, quoi qu'il arrive. On ne sait pas si on risque d'être percuté par un véhicule, on ne sait pas si on risque de tomber malade. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même dans un monde confortable, où on a un toit, où on ne vit pas dans un pays qui connaît les bombardements, où on a un confort plutôt assuré, n'empêche que il y a quand même des éléments qui vont être des menaces à notre vie. Et tout ce qui va entourer ceci, notre cerveau va être très 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 attentif. Il va même organiser tout son petit monde pour contrôler un maximum de choses, pour faire en sorte que là où il n'y a pas de certitude, donc dans beaucoup d'éléments de notre vie, on va contrôler nos pensées pour mettre de la certitude. En réalité, il y a très peu de choses qui sont certaines dans la vie. Même un CDI, au final, quand on a un CDI, on n'est pas certain de le garder. Et ça, je peux vous le dire, parce que quand j'ai signé mon premier CDI, je l'ai perdu quelques mois après, quand j'ai été licenciée pour des raisons économiques. Donc, qu'on ait un sentiment de certitude, qu'on soit par exemple une personne mariée avec un CDI, avec une maison qu'on a achetée, même demain, on peut perdre tout ça. Heureusement, on n'y pense pas tous les jours. On n'est pas là à se réveiller le matin en se disant « mince, ça se trouve, un de mes proches va tomber malade demain ou je vais perdre mon logement demain ». Heureusement qu'on ne pense pas à ça tous les jours. Mais quelque part, il y a une partie de nous qui le sait et qui est cette partie qui tremble régulièrement. Et en fonction des personnes, bien sûr que ça va changer. Il y a des personnes qui vont être très focalisées là-dessus et puis d'autres beaucoup moins. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de croyances en lien avec la nourriture. Parce que c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui va venir vraiment définir la manière dont on mange, la manière dont on fait ses courses, la manière dont on aborde les repas, la manière dont on va considérer également son corps, sa silhouette. Et c'est pour ça que c'était pour moi important de vous en parler comme ça, sous cet angle-là. Donc rappelez-vous, on a vraiment ce besoin de survie qui est très important. Et pour pouvoir, donc on est un petit homme, on est dans le monde est très incertain, on a ce besoin de survie qui est là et on va vouloir l'organiser en commençant à croire certaines choses. Nos croyances deviennent des piliers ensuite pour nos vies. Tout ce qu'on va croire ensuite, notre cerveau va aller les alimenter par des preuves. C'est-à-dire que si je crois que, je ne sais pas moi, quelque chose de très simple qu'on pourrait croire, que la majorité des êtres humains sont gentils, je vais trouver au cours de ma journée des personnes que je vais trouver très sympathiques. Par contre, si je crois que la majorité des êtres humains n'est pas sympathique, je vais en fait porter mon attention là-dessus. C'est pas tant qu'il y a plus de gens sympas ou moins de gens sympas en fonction de ce que je crois, c'est surtout que je vais avoir des filtres à travers lesquels je vais voir le monde. Il y en a plusieurs, hein, des filtres entre ce qu'on voit et nous-mêmes. Il y a vraiment pas mal de filtres que vous pouvez vous-même rechercher. Hein, si vous tapez dans un moteur de recherche PNL filtre, vous allez rapidement voir qu'il y a des petits dessins, des petits schémas qui montrent très bien ça. Et je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Mais il y a en fait beaucoup de choses qui vont venir biaiser notre interprétation, qui vont venir en tout cas l'alimenter d'une certaine manière. Et donc je vais croire quelque chose pour pouvoir nourrir mon besoin de sécurité. Et ensuite, je vais partir à la recherche de preuves pour soutenir mes croyances. Et ce qui est assez fou, et ce qui est même assez puissant, c'est que je vais toujours vouloir, parce que rappelez-vous, je veux vraiment me rassurer. Donc en fait, pour être rassurée, il faut que ce que je crois, ce soit vrai. Donc du coup, il y a même parfois où je vais organiser certaines choses pour que, effectivement, le résultat me montre que oui, ma croyance était fondée. Combien d'entre nous pouvons défendre bec et ongle ce qu'on croit, même si on a tort? Et pour moi, en réalité, on a rarement raison ou tort parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. Il n'y a rien qui est vrai à 100%, en tout cas très très peu de choses. Même en nutrition, c'est assez intéressant quand on commence vraiment à se pencher sur toutes les études scientifiques qui existent, et on reparlera un petit peu des études scientifiques juste après, c'est que finalement, on peut se rendre compte qu'il y a très peu de choses qui sont certaines dans ce monde. Mais nous, êtres humains, on va aller dans le monde et on va chercher à nourrir ce qu'on croit. Et comment on le fait ? Ben c'est juste qu'en fait, on a donc, encore une fois, on reçoit tellement d'informations à longueur de journée qu'on va forcément utiliser notre énergie, notre degré d'attention pour ne relever que ce qui est important pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de réfléchir à, je ne sais pas moi, un modèle de voiture, un modèle de montre, quelque chose que vous aviez envie d'acheter, peut-être une robe, un certain pantalon, ou alors une couleur que vous aimez particulièrement, ce genre de choses. Vous avez commencé à vous dire, ah tiens, peut-être que ça serait bien de l'avoir, ou ça serait chouette si je pouvais, je ne sais pas moi, acheter ce truc-là. Et puis d'un coup, vous ne voyez plus que ça. En fait, en réalité, il y a toujours eu toutes ces voitures-là, toutes ces robes-là, toutes ces montres-là. C'est juste qu'avant, vous ne faisiez pas vraiment attention à ça parce que vous n'aviez pas encore dit à votre cerveau « attention, c'est important ». Donc à partir du moment où vous dites à votre cerveau « attention, c'est important », « attention, les calories, c'est important », « attention, les nutriments, c'est important », « attention, tel ingrédient dans un aliment, c'est important », « attention, telle manière de manger est importante », alors vous allez commencer à voir toutes les preuves qui vont vous montrer que oui, c'est important. Ce qui est dingue, c'est que pendant toutes les années où j'étais persuadée que le gluten, c'était mauvais pour la santé, je tombais sur toutes les études scientifiques qui prouvaient ça. Et puis après, je me suis penchée autrement sur les études scientifiques et le gluten, et j'ai trouvé plein d'autres études qui venaient me montrer que, en fait, à moins d'être atteint de maladies cœliaques ou d'autres pathologies qui étaient amplifiées par la consommation de gluten. En réalité, le gluten en soi n'était pas un ingrédient, une protéine qui était néfaste pour l'être humain. Et moi, pendant des années, j'ai cru vraiment l'inverse, si bien que je ne digérais plus en fait le gluten. Et je vous en parlerai de cet exemple-là juste un tout petit peu après. Donc, les études scientifiques, il faut se rappeler que ce sont des études qui sont faites par des humains, souvent sur des souris. Ce qui, moi, me plaît pas personnellement pour des raisons éthiques et puis aussi parce que, ben, au final, on n'est pas des souris, mais bon, passons. Elles sont financées par des groupes qui ont bien souvent de l'argent à se faire parce que des études scientifiques, ça coûte cher à produire et les personnes lambda n'ont pas les moyens nécessaires, bien souvent, pour financer ces études. Et donc, forcément, qu'il y a avoir des biais cognitifs qui vont venir s'immiscer dans de nombreuses études. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il existe des études qui montrent tout et leur contraire. Donc, souvent, il y a des personnes, quand je leur explique quelque chose, notamment que le poids et la santé ne sont pas directement liés, il y a des personnes qui vont me dire, mais si, regarde, telle étude, et puis moi, je leur ressors les 200 études qui sont référencées dans un document et qui vont montrer que non, il n'y a pas de lien de cause à effet. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, des fois, on va vraiment essayer de soutenir ses croyances par n'importe quel moyen et on aime bien se rattacher sur des choses concrètes, rationnelles et des études scientifiques, généralement, ça présente bien. Donc, on se dit, mais si, regarde, telle étude le montre. Moi-même, hein, souvent, quand je veux montrer à mes clients et mes clientes qu'effectivement, il n'y a pas un lien direct de cause à effet dans le poids et la santé, je vais être la première à parler d'études scientifiques. Mais des fois, les études scientifiques, voilà, il faut quand même se rappeler qu'il y a encore des avancées qui sont faites dans certains domaines, qu'il y a certaines études qui sont financées par certains groupes, certaines personnes qui ont, encore une fois, de l'argent à se faire, que l'industrie des régimes, du bien-être, des cosmétiques, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et que finalement, il y a des gens qui ont tout à fait l'intérêt de nourrir votre croyance que vous n'êtes pas assez bien comme vous êtes et qu'il faut forcément vous réparer parce que c'est votre corps ou votre alimentation qui est responsable. Si vous-même, vous avez cette croyance-là, de base, qui est que, effectivement, je ne suis pas très bien, il y a quelque chose qui cloche chez moi, il faut que je me répare, ce qui a été une de mes croyances pendant de très nombreuses années, vous allez toujours trouver des produits à acheter, des méthodes à essayer, des programmes à faire, parce que vous-même, vous êtes déjà convaincu qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Donc, les publicitaires, les gens du marketing, ce genre de choses, ils y vont, hein, ils aiment bien nourrir ces croyances-là. Effectivement, si on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, on ne va pas essayer de se réparer à tout prix, on va peut-être moins dépenser d'argent. Bref, petit aparté. Nos croyances, donc ces pensées qu'on se répète plusieurs fois, qui deviennent vraiment quelque chose après d'assez solide en nous, attention, elles ne sont pas toutes à jeter à la poubelle. C'est pas parce que j'ai une croyance que c'est pas bien. Au contraire, on a besoin d'avoir des croyances. Sans croyances, l'être humain... Il est complètement déstabilisé et c'est pour ça que quand vous intéressez à la parentalité parce que vous avez un enfant par exemple et que vous vous lancez dans la lecture de bouquins qui parlent de parentalité positive, ce genre de choses, il est expliqué qu'un cadre est très important pour des enfants. Un enfant a besoin de savoir quelque chose qui lui est permis et quelque chose qui lui est interdit. Un enfant, pour se développer de manière la plus bénéfique possible, a besoin de repères et a besoin de croyances. Donc, on a besoin de croyances. Le truc, c'est que souvent, nos cerveaux vont vouloir aller dans un espèce de perfectionnisme. Donc, si je fais quelque chose, il faut que ce soit fait parfaitement. Nos cerveaux adorent le tout ou rien. Il faut que ce soit noir ou il faut que ce soit blanc. Nos cerveaux adorent les raccourcis également. C'est-à-dire que même si quelque chose est faux, c'est-à-dire qui n'est pas démontré vrai, en tout cas pas à 100% ce genre de choses, notre cerveau va quand même faire des espèces de raccourcis, quoi. C'est plus facile de dire que oui, bon, en fait, en même temps, tu comprends, le gluten, c'est pas terrible pour la santé, que de dire, bah, écoute, dans certains cas, pour certaines personnes, à certains moments, ouais, effectivement, c'est peut-être pas l'ingrédient qui leur est le plus bénéfique. Nos cerveaux aiment beaucoup les raccourcis, aiment beaucoup le tout ou rien, aiment beaucoup le perfectionnisme, et les pensées perfectionnistes. Et nos cerveaux se disent également que, en même temps, si je me plante, si j'ai tort, si j'ai faux, alors déjà, c'est que tout ce que je croyais depuis toutes ces années, ça veut dire que c'est peut-être pas vrai. Alors du coup, oh là là, mon Dieu, ça me fait flipper. Et puis peut-être que du coup, je suis nulle alors. Enfin, ou alors que j'avais quelque chose que j'avais pas compris. On est rapide à se juger quand on s'aperçoit que ce qu'on a cru pendant des années et des années, c'était peut-être pas la vérité absolue, ce qui était le plus bénéfique pour nous. Moi, j'ai mis des années hein, avant de... je m'étais rendu compte qu'effectivement, mon alimentation n'était peut-être pas la plus adaptée pour moi. Et j'ai mis quand même de nombreux mois, voire quelques années, avant de manger à nouveau autrement. Parce que je me disais, mais en même temps, si j'ai... Ça voudrait dire balayer d'un revers de main tout ce que j'ai cru pendant des années, tout ce que j'ai soutenu pendant des années. Et puis si, en fait, les fruits et les légumes ne sont pas les ingrédients, les fruits et les légumes crus ne sont pas les seuls aliments, bon là j'exagère un peu, mais c'était pas loin des fois, les plus bénéfiques pour la santé de l'être humain, mais je suis qui, moi, dans ce monde ? Enfin, le sol sur lequel je me suis construite, pour moi, à un moment donné, j'ai eu un sentiment qui s'était complètement fissuré, effondré, écroulé. Donc je suis pas en train de dire que remettre ses croyances en question, c'est facile. Mais je suis en train de dire que par contre, pour certaines personnes, en tout cas pour la majorité des personnes que j'accompagne et qui souhaitent retrouver une relation apaisée avec la nourriture, avec leur corps et avec elles-mêmes, ça va leur faire beaucoup de bien de pouvoir déconstruire certaines choses qu'elles avaient construites depuis toutes ces années et qui ne leur faisaient pas du bien à la fin de la journée. Donc, pour résumer, je suis un être humain, j'ai un cerveau, j'ai besoin de certitude, je vais croire des choses pour nourrir ce sentiment de sécurité. Il y a des choses qui vont être bénéfiques pour moi, il y a des choses qui ne vont pas être bénéfiques pour moi. Ces pensées que j'ai dans ma tête, pour beaucoup, et ça c'est aussi un point essentiel et quelque chose de très important à savoir ou alors à se rappeler, c'est que ces pensées ne m'appartiennent pas. Ce sont les pensées... En fait, un être humain, quand vous pensez à un nourrisson qui arrive sur cette terre, lui, il n'a pas de parole. Je ne sais plus jusqu'à quel âge c'est. Enfin, il y a jusqu'à quelques mois où on peut, peut-être 6 mois, où on peut vraiment, on est multilingue, on peut parler toutes les langues du monde. Un bébé qui naît en France ne va pouvoir parler le français que... Enfin, il peut encore parler le mandarin, le japonais, l'anglais, le portugais, jusqu'à... Il me semble que c'est 6 mois, enfin, où il commence à entendre, hein, je ne veux pas me planter, je ne suis pas très douée pour retenir les chiffres. Une de mes croyances, du coup, mon cerveau perpétuellement me rappelle qu'effectivement, je ne suis pas douée pour rappeler les chiffres. Et vous voyez, là, c'est en train de revenir. Donc, je vous montre aussi comment les croyances se mettent vraiment en mouvement. Mais toujours est-il qu'un petit, quand il arrive dans ce monde, il n'a pas de pensée. Et donc, forcément, il va choper les pensées des uns et des autres, des unes et des autres. Moi, je l'ai vu avec mon fils qui a un peu plus de 4 ans, et il dit des choses qui sont vraiment piquées à certaines personnes. Parfois, je sais qui c'est, parfois, je ne sais pas qui c'est. Il y a un petit copain qui lui expliquait l'autre jour que le chat à la sortie de l'école, c'était le chat de la tati de la classe. Moi, j'avais dit à mon fils que c'était autre chose. Au final, il a fini par répéter ce que son petit copain lui avait dit, qui, je crois, n'avait pas vraiment raison. Mais maintenant, mon fils y croit dur comme fer. Tout ça parce qu'un copain en qui il a confiance lui a expliqué. Donc, toutes les pensées que vous avez déjà ne sont pas à vous. Et en plus de ça, il y a des pensées que vous avez juste adoptées parce que quelqu'un en qui vous aviez confiance, que vous aimiez bien, vous a dit... C'était comme ça. Pensez, et quand je vous dis quelqu'un, c'est pas forcément une amie, un proche ou autre chose. Ça peut être un livre, ça peut être une vidéo. Pensez à toutes ces lectures que vous avez eues sur l'alimentation, santé, saine, sur la perte de poids, sur comment, si vous n'arrivez pas à perdre 5 kilos avant cet été, c'est vous manquez de volonté. Pensez à toutes... ces conversations que vous avez eues autour de la machine à café où vous vous disiez que non, en même temps, vous ne pouviez pas mettre un 2 pièces cet été parce que vous aviez encore quelques bourrelets sur le ventre. Rappelez-vous comment vos grands-parents vous disiez que ça serait bien que tu ne prennes pas ce deuxième gâteau parce que regarde, ce serait peut-être pas bon pour ta ligne. Enfin, toutes ces choses que vous emmagasinez depuis que vous êtes sur Terre, essayez d'y mettre, de les éclairer, de mettre un peu de lumière dessus, et essayez de voir comment, en fait, ça affecte aujourd'hui votre passage à table, vos vacances, vos sorties au restaurant, vos courses, toutes ces pensées que vous avez non-stop au sujet de la nourriture, votre relation à votre corps, comment vous vous voyez dans la glace. On vit dans un monde qui nous explique constamment comment on doit manger, comment on ne doit pas manger, à quoi on doit ressembler. Et si jamais on sort de ces cadres, de ces normes qui sont inventées de toutes pièces, alors on n'est pas acceptable. Donc non seulement l'être humain a besoin de sécurité, mais il a besoin aussi d'appartenance, parce que l'appartenance au groupe est directement liée à notre survie. Du moins au temps de Cro-Magnon où on avait besoin des uns et des autres, des unes et des autres, pour pouvoir allumer un feu et faire face à une tribu ennemie ou à l'attaque d'un lion ou ce genre de choses. Donc bien sûr qu'on veut appartenir au groupe et bien sûr qu'on veut continuer à nourrir des pensées qui vont aller dans le sens du groupe, qui vont aller aussi dans le sens de ce que nous on croit par rapport au monde. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que notre cerveau nous dit. Notre dit, ça ne veut rien dire. On n'est pas obligé de croire tout ce que notre cerveau nous dit. Voilà le mot que je cherchais. Et c'est clé. C'est vraiment clé, ça. Ce n'est pas parce que mon cerveau me dit que je vais mourir, ou alors pour ma part, pendant des années, ce n'était pas « je vais mourir », mais c'est « je ne vais jamais digérer ce pain au chocolat ». Ou alors, mon cerveau aussi m'a dit pendant plusieurs années, mais tu te rends pas compte, Alice, le gras, c'est pas bon pour la santé. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. C'était surtout ça, moi, ma croyance. Tu ne crois pas, Alice, que tu vas manger ce truc-là, parce que franchement, c'est mauvais pour toi. Quand mon cerveau me dit ça, il me dit vraiment de moins en moins, parce que maintenant j'ai vraiment fait tout ce travail de déconstruction. Donc j'ai des pensées de temps en temps encore hein, qui arrivent, qui sortent un peu je ne sais où, mais je sais les reconnaître pour ce qu'elles sont. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des phrases. Et je ne suis pas mes pensées. Et heureusement, la raison première pour laquelle je vous dis heureusement, c'est que nous avons de nombreuses pensées grossophobes, discriminatoires, racistes et tous les istes et les hobs en tête parce que on nous a dit des choses qu'on a nous-mêmes internalisées. On a internalisé des pensées au sujet de l'alimentation, du poids, de l'image corporelle, hein, du genre, de la sexualité, de la validité d'un corps ou non. Mais tout ça, c'est du construit en fait. Tout ça, c'est des gens qui avait une certaine vision du monde et qui nous l'impose depuis des centaines d'années. Et nous, on se trimballe ça à longueur de journée et on les utilise en fait pour se taper dessus avec. Si je ne fais pas une taille 36, alors je ne suis pas un être humain respectable. Ce sont des croyances qu'on transporte avec nous, bien souvent de manière inconsciente et qui vont conduire notre véhicule, notre corps, hein, qui vont façonner nos relations, qui vont façonner notre propre vision du monde. Et nous-mêmes, on va perpétuer ces croyances-là, tout simplement parce qu'on baigne dans un océan qui nous explique qu'on devrait être d'une certaine manière, parce que sinon, on n'est pas acceptable. Petit aparté sur comment nos croyances impactent notre digestion à travers les émotions. C'est fascinant. Il y a des études, des études qui ont montré que la manière dont... Donc, ce qu'on croyait à propos des aliments, ça, c'est l'étude du milkshake. J'en avais déjà parlé sur ce... Je vous renvoie vraiment sur mon podcast « Ce n'est pas ce qu'on mange, mais comment on le mange ». Mais qui ont montré que, en fait, notre état d'esprit et plutôt, du coup, nos émotions, donc les réactions de notre corps par rapport à notre état d'esprit, quand on avale quelque chose, vont directement impacter la qualité de notre digestion. Et c'est là que je voulais vous reparler de l'exemple du gluten en vous parlant de son effet nocebo. Donc, si vous connaissez l'effet placebo, c'est en gros, j'ai l'impression ou j'ai même quelque chose, je vais prendre un cachet, un médicament, voire même un aliment, et en fait, je vais me sentir tout de suite mieux avec. Non pas grâce à ce que j'ai avalé, qui était en fait une substance nulle, c'était un bout de sucre ou c'était un peu d'eau, ou peu importe, mais parce que j'ai cru en fait que ça allait fonctionner, donc ça a fonctionné. L'effet nocebo, c'est un peu l'inverse. Et si je retire le gluten, si je retire le sucre, si je retire ci ou ça, alors je vais me sentir mieux. Et en fait, ça fonctionne parce que j'y crois. Donc, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, parce que encore, nos cerveaux sont tout ou rien, je ne suis pas en train de vous dire que pour certaines personnes, retirer le gluten ne leur sera pas bénéfique. Mais bon, déjà, ça pourra leur être bénéfique si elles y croient vraiment. Et en plus de ça, bien sûr qu'il existe des pathologies, notre corps réagit à certaines choses, mais quand on se penche sur le principe même de l'allergie, c'est qu'à un moment donné, et notamment l'allergie alimentaire, c'est qu'à un moment donné, on a consommé quelque chose, ou alors notre mère, celle qui était enceinte de nous à cette époque, a consommé quelque chose. Notre corps, en fait, notre interprétation de cet aliment-là a été assez violente, assez négative, et du coup, notre corps a commencé ensuite à le rejeter. Ça, c'est assez intéressant aussi quand on s'intéresse sur le principe de la douleur chronique. Moi, qui a été un de mes champs d'intérêt pendant très longtemps, on se rend compte que déjà, la douleur n'existe pas. Si j'ai mal au doigt, la douleur ne se situe pas dans mon doigt, elle se situe dans ma tête. Et cette douleur, en fait, bien souvent, donc il y a la douleur dans l'instant où je me blesse, qui va en fait monter, qui va signaler à mon cerveau attention à ce que je vais faire avec mon doigt parce que y a un danger potentiel. Et il y a celle qu'on va continuer à nourrir de manière bien souvent inconsciente et qui va venir ensuite impacter notre doigt, pour reprendre cet exemple, pendant des jours et des jours et des jours. C'est vraiment la même chose avec l'alimentaire, et ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que parfois il y a des aliments qui nous font du bien et d'autres qui ne nous font pas du bien. Encore une fois, il n'y a pas ce côté tout ou rien, mais sachez en tout cas que ce qu'on va croire va vraiment grandement influencer la manière dont on va digérer nos repas, la manière dont on va faire nos courses, la manière dont on va passer à table, la manière dont on va penser à nos aliments, la manière dont on va se nourrir. Pas que, parce qu'il y a une grosse partie aussi émotionnelle, mais l'émotionnel découle en fait du cerveau. C'est notre interprétation première qui va ensuite être traduite par des vibrations dans notre corps. Donc, bousculer ses pensées, ça fait peur. Il y a des personnes qui, malheureusement, et on en a des exemples qui ont des croyances et qui veulent tellement les défendre qu'elles vont partir en guerre pour pouvoir défendre leurs croyances. Il y a des personnes qui voudront jamais remettre en question leurs pensées parce que c'est inconfortable. Il y a ce principe qu'on appelle la dissociation cognitive où en fait on a deux pensées auxquelles on croit. Et en fait, c'est très inconfortable de penser deux choses à la fois. Par exemple, une pensée de l'ordre de je déteste mon corps avec ses kilos. Et une autre qui est j'aimerais commencer à m'accepter avec ses kilos. Et si j'ai ces deux pensées en même temps, ça va générer un inconfort chez moi. La manière la plus facile pour pouvoir secouer cet inconfort, ça va être de nourrir une pensée au détriment de l'autre. Et du coup, on va développer une croyance au détriment de l'autre. L'autre croyance, celle qu'on croyait avant, va se résorber petit à petit, même s'il y aura toujours un fondement, il y aura toujours des voies neuronales qui auront été créées. Mais en tout cas, il y en aura d'autres qui auront été créées avec la nouvelle pensée. Et du coup, cet inconfort va aussi disparaître à terme. Mais au début, c'est pas confortable. Se dire, OK, peut-être que je me suis trompée sur le lien que je faisais entre le poids et la santé, peut-être que je me suis trompée sur ma conviction que certains aliments étaient vraiment mieux que d'autres, peut-être que je me suis trompée sur la manière dont je voyais le monde, et notamment mon corps, la nourriture. Bah, c'est difficile en fait pour beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vivre une vie en perpétuant sans cesse les mêmes croyances, parce que ça sera toujours plus confortable que de développer des nouvelles pensées qui vont pourtant, elles, venir créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Ce qui peut aider à faire ça, je trouve, c'est de commencer à se détacher soi de ses pensées. Et moi, quand je suis avec mes clients et mes clientes, je leur parle souvent de leur cerveau. Je leur dis pas, tu sais, toi, souvent je dis, tu sais, ton cerveau. Parce que on n'est pas, encore une fois, ses pensées. Et que tout ça, c'est une question de fonctionnement, en fait, biologique, de fonctionnement mécanique, de comment l'être humain fonctionne. Et donc, du coup, ouais, je pense des trucs. Et c'est pas moi vraiment avec mes valeurs profondes, moi vraiment qui je suis. Non, c'est une partie de notre cerveau. Et donc, du coup, déjà, de se détacher en parlant de soi, de cette partie-là, comme c'est mon cerveau, je trouve que ça permet de prendre davantage de recul, de hauteur. Et j'aime aussi me demander, mais si tout est possible en fait dans ce monde, si tout peut être vrai ou alors si tout peut être faux, du coup je veux croire quoi pour moi? Qu'est-ce qui m'aide moi à avancer en direction de la vie que j'ai vraiment envie de mener? Moi, la vie que j'avais envie de mener, c'était une vie dans laquelle il y avait des frites dedans. Et c'est toujours l'exemple que je donne, mais parce que pour moi c'était vraiment très essentiel. Je crois que j'avais envie d'être cette personne qui pouvait juste aller dans un parc d'attractions, qui pouvait aller au restaurant, qui pouvait aller chez des gens sans avoir peur de manger. Et ce travail, j'ai dû le faire à l'extérieur de chez moi, mais aussi à l'intérieur de chez moi. J'ai dû commencer à croire des nouvelles choses quand je suis passée à table, quand il a été question de frites et d'autres aliments, notamment les pains au chocolat aussi, enfin voilà, des aliments un peu gras un peu, et des aliments sucrés aussi. J'ai dû en faire un travail de déconstruction. Parce que ce qui se passait, c'était que je me levais le matin, je sortais de mon lit, et le matin, en fait, notre cerveau se rappelle toujours de qui on est dans ce monde. Notre cerveau va se dire, ah oui, c'est vrai que toi, tu es la personne avec des problèmes digestifs, avec tu es la personne qui a peur de prendre du poids, ou tu es la personne qui ne se supporte pas dans ce corps-là. Ah ben tiens, on va continuer à aller soutenir ces croyances-là, à vivre cette vie-là. Parce que c'est familier, c'est confortable, notre cerveau veut du familier, du confortable. Joe Dispenza, dans son livre « Rompre avec soi-même », en parle très bien. Donc lui, moi je recommande la première partie de la lecture de son ouvrage et après poursuivre si ça nous intéresse. Lui, sa méthode à lui, elle est très méditative, moi ça ne me correspond pas. Mais en tout cas, ce qu'il dit dans ce livre, et notamment dans la première partie du coup de ce livre, « Rompre avec soi-même », je la trouve vraiment très importante. Il dit que ce que je viens de vous dire là, en fait, qu'on se rappelle sans cesse qui on est dans ce monde et que si je veux être une nouvelle personne, il va falloir que je commence à être cette nouvelle personne. Nous, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on se dit, quand je serai comme ça, alors je vivrai cette vie-là. Mais en réalité, vous vivrez cette vie-là parce que vous êtes devenu la personne qui était comme ci, comme ci, comme ça et qui avait cette place dans cette vie-là. Un dernier outil que j'avais envie de vous proposer, c'est ce que j'appelle le temps de parole équitable. Parce que bien sûr que votre cerveau voudra vous expliquer que mais tu te rends compte, tu risques d'avoir mal au ventre si tu manges ça, ou tu te rends compte, tu risques de prendre du poids si tu vas encore manger de la fondue aujourd'hui, ou non, franchement, ça, c'est pas raisonnable, tu devrais pas acheter ce vêtement parce qu'il t'irait pas, ce genre de choses. Et votre cerveau, il va toujours vouloir vous juger, nos cerveaux jugent en premier, encore une fois, c'est une question de survie, c'est plus facile d'imaginer un serpent derrière un buisson qu'un prétendant avec un bouquet de fleurs, c'est ce que je dis toujours, parce qu'en termes de survie humaine, bien sûr, c'est bien plus bénéfique de prendre les jambes à son cou et de ses jambes à son cou et de partir. Donc, le négatif arrive bien souvent en premier. Et c'est pas grave, ça ne veut rien dire à propos de nous. Ce qu'on peut faire, c'est donner le micro. Moi, j'aime bien imaginer, vous savez, un micro qu'on va tendre. Et donc, actuellement, on tend le micro à cette voix négative à l'intérieur de nous qui est pas méchante, hein, qui veut simplement nous protéger, mais qui est juste pas très au fait sur la réalité de notre vie et sur nos envies. Et de tendre le micro à cette autre partie de nous qui a envie d'être cette personne épanouie, vivante, qui se nourrit comme elle a envie, en fonction des besoins de son corps, qui se fait plaisir et en même temps qui sait s'écouter, qui est bien et qui est à l'aise dans son corps, qui n'a plus peur d'être pris en photo, ce genre de choses. Et on lui donne, elle aussi, le micro. Temps de parole équitable. Ok, toi, tu m'as dit 20 pensées négatives sur moi, moi je vais t'en donner 20 pensées positives. Et des fois, les 20 pensées positives, ça va être Par exemple, oh là là, mon Dieu, je vais manger un pain au chocolat, je vais jamais le digérer, c'est mauvais pour la santé, c'est de que des calories vides, enfin, tous ces genres de choses qu'on a entendues. Essayez de trouver 20 arguments qui vont plaider en faveur du pain au chocolat. Vous avez les 20, 20 arguments qui vont plaider en défaveur et les autres qui vont plaider en faveur. Et après, faites votre choix. Et peut-être que votre choix, ça sera de ne pas consommer tel aliment. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de manière de faire. Il y a juste faire en fonction de ce qui nous correspond, en fonction des choix qu'on a réellement envie de faire. Faire des choix en conscience. Actuellement, si vous êtes comme les clients et les clientes que j'accompagne, et comme moi il y a quelques années, les décisions que vous prenez, et notamment celles qui touchent à l'alimentation et à votre corps, elles sont régies par cette partie de vous qui a peur, qui doute, qui est confuse, qui est pas bien qui est pas bien à l'aise, qui redoute énormément de choses. Et c'est elle, en fait, qui prend vos décisions. Sauf que cette partie-là de vous, c'est pas celle que vous avez envie d'être. Enfin, j'ai jamais rencontré encore de personne, notamment dans les... Avant de travailler ensemble, je propose toujours un appel découverte où on échange pendant une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Je vous explique comment je peux vous aider. Je vous donne quelques pistes aussi si vous avez envie pour la suite. Et j'ai rarement entendu une personne qui m'a dit « Non, mais ça me convient très bien. » Bien souvent, les personnes qui viennent me voir me disent « Voilà, moi, j'ai cette vie que j'aimerais vivre et j'y arrive pas, en fait. » Parce que j'ai peur quand je fais mes courses, parce que j'ai peur de prendre du poids, parce que ou alors parce que même je redoute de perdre du poids, je me sens pas à l'aise dans mon corps, etc., etc. Et le truc, c'est que rarement on donne la voix à cette partie de nous qui a des projets pour notre vie. Et ces projets ne sont pas connaître toutes les calories, les nutriments de tel ingrédient qui a autre chose à faire de sa vie que de réfléchir à si elle devrait vraiment terminer cette part de gâteau et qui a des projets qui gambadent, je sais pas moi, qui est vraiment épanouie. Nous, on se freine. On se freine parce qu'on a de nombreuses croyances qui nous expliquent que l'alimentation, c'est dangereux, c'est pas safe, on va prendre du poids, on a peur de prendre du poids, c'est un danger, il faut rester le plus mince possible, ou alors il faut manger le plus sain possible. Parce que au quotidien, on nous rabaisse en nous rabâchant que ce qu'on croit, c'est pas la bonne chose, qu'on devrait croire autre chose. Et principalement qu'il y a une manière de se nourrir, un corps à avoir, et que si on n'est pas ça, on ne vaut rien. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est faux. Vous valez tout. En fait, soit tout le monde vaut tout, ou soit tout le monde vaut rien, mais à un moment donné, il faut choisir. Il n'y a pas de personnes qui ont plus de valeur que d'autres. Enfin, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Il y a des actions qu'on a envie de juger, pas supérieures, mais mieux que d'autres. Et il y a des choses qu'on a envie de faire dans notre vie et des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais au-delà de ça, on n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. À commencer par l'alimentation. En termes de nutrition, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Oui, effectivement, les fruits et les légumes, c'est bénéfique pour la santé, mais notre santé, qu'elle soit. N'oublions pas, hein, la santé, c'est quelque chose de physique, d'émotionnel, de social. C'est pas juste ne pas avoir mal en fait. Ça, c'est pas la définition de la santé. Dans la santé, il y a aussi nos pensées, nos émotions, comment on est en lien ou non avec les autres, ce genre de choses. Si vous voulez poursuivre votre exploration, je vous invite vivement à me contacter, à aller voir mon site internet auvertaveclily.fr/coaching, rubrique coaching. Je serai ravie de vous aider sur ce chemin d'acceptation de vous-même, de votre corps, de redéfinir ensemble ce que vous voulez croire au sujet de l'alimentation pour que vous puissiez enfin vivre votre vie de la manière la plus merveilleuse possible. Je suis persuadée que si toutes les personnes qui ont été socialisées en tant que femmes arrêtaient de se prendre la tête sur ce qu'elles doivent manger, quand, comment, avec qui, où, etc., On ne pourrait plus nous arrêter, en fait. Le monde serait bien meilleur que celui qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais ce travail, à vrai dire. Donc, merci pour votre écoute. Je sais que c'était un épisode un petit peu long, un petit peu costaud, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, qui est pour moi un sujet fondamental. Très bonne fin de semaine, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auvertaveclily.fr, rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook @auvertaveclily. À bientôt.